Cachillon, le rendez-vous manga de Radio Campus Pau. Si toi aussi tu as tenu religieusement un body count pendant ta lecture de SNK, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Cachillon, l'émission manga de Radio Campus Pau. Je suis Gaëtan et je suis accompagné de...
Tristan.
Bonjour Tristan. Et nous sommes de retour d'Angoulême, du Pont Vieux Festival de l'édition 2023. Et nous sommes là pour vous faire le petit débrief, la petite présentation, mais avec un angle particulier, vu que, bon, j'ai quelque chose d'un peu généraliste, vous avez pu lire partout, mais nous, on va être là plus pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire dans un festival comme celui-ci, quand on est amateur de manga, otaku de toutes sortes.
Ouais. Ça va être vraiment centré sur le manga, même si même nous, dans notre balade, on est allé un peu partout, on va quand même se concentrer sur le manga... pour rester dans le format de l'émission. Quoi.
Exactement, c'est Cachillon, on s'appelle pas BD Franco-Belge Podcast.
Voilà. À faire peut-être.
Mais par contre, effectivement, allez, dans ce cas-là, ne vous limitez pas au manga d'ailleurs.
Non,
lisez
ça serait un peu dommage.
De joyeuseté. Mais bon, nous on n'est pas là non plus pour palabrer sur tout n'importe quoi. Donc on va parler manga. Donc d'abord, petit point contexte. Donc petit point contexte peut-être pour ceux tout simplement à qui ne connaissent pas le festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est le vrai nom, on l'appellera jamais comme ça à partir de...
Mais c'est bien de le dire une fois.
Voilà, il est mis, on l'appellera probablement FIBD ou Angoulême Festival.
Ouais, ou Angoulême.
Que sais-je. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus grand festival mondial qui est dédié à la bande dessinée de toutes sortes. Alors on est effectivement, historiquement c'est quelque chose dédié à la BD occidentale, donc comics et école franco-belge. Donc école franco-belge, Tintin, Lucky Luke, Astérix, Spirou, enfin tout ce qui vient un peu de France et Belgique, comme son nom l'indique d'ailleurs, mais qui depuis quelques années s'ouvre vraiment de manière beaucoup plus significative au manga. Et le festival prend la forme à la fois d'une librairie géante. D'ailleurs, je crois que le site l'a relayé comme quoi c'était la plus grande librairie au monde.
Oh, mais enfin, il triche aussi.
Oui. Parce que c'est une ville, hein. C'est littéralement le centre-ville d'Angoulême.
C'est vraiment pour aller d'un stand à l'autre, on fait une randonnée. En plus, c'est une colline.
Ouais, c'est une colline, Angoulême. Voilà. Déménager la ville.
On sort, on a mal aux chevilles, mais on a pris du plaisir quand même.
C'est ça. Donc, oui, c'est à la fois la plus grande librairie mondiale, donc avec plein d'exposants qui sont classés dans ce qu'ils appellent des bulles. Donc, c'est des gros chapiteaux. Un peu comme dans les conventions, comme vous pouvez trouver dans des conventions, donc où les éditeurs viennent vendre leurs produits, où ils invitent des auteurs, enfin voilà, ce sont ces choses-là, mais à la fois, Angoulême c'est pas que ça, on n'est pas là que pour acheter et remplir sa bibliothèque de grosses joyeusetés, même si nous, en partie.
Quand même. Tous les ans.
Alors, il y a des vrais boucoles.
Ouais.
Enfin, de toute façon, vous avez pu les voir si vous avez suivi les stories et les dédicaces. Mais c'est aussi Angoulême, c'est également quelque chose qui est très très tourné sur le médium bande dessinée. Enfin, il y a le côté où vous retrouverez des expositions, des rencontres, des masterclass d'auteurs. Enfin, en fait, là, c'est vraiment même des dédicaces. Hein. Vous pouvez rencontrer les auteurs directement. Enfin, Angoulême, c'est cette partie-là. D'Angoulême est plus dédié à ceux qui veulent approfondir les processus de création, qui vraiment s'intéressent à comment on fait de la bande dessinée et comment ce médium fonctionne.
Il y a même des espaces faits pour les pros ou les pros en devenir qui peuvent rencontrer des éditeurs. Il y a tout ce pan-là aussi qui est très intéressant.
Exactement, effectivement. Donc Angoulême en fait dispatche un peu toutes ses activités sur son centre-ville et sur sa gare qui est en contrebas. Et d'ailleurs c'est cet endroit-là qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui parce que le quartier manga se trouve là.
Et donc cette année pour la 50e édition, on avait un trio de têtes d'affiche qui était exclusivement composé de mangaka. Donc vraiment en fer de lance, on avait Hajime Isayama dont on a déjà parlé... souvent, et même quand on a présenté cet hiver le festival d'Angoulême qui est arrivé, voilà, l'auteur de l'Attaque des Titans, hein, évidemment. On avait également Ryushi Ikegami, dont on va vraiment parler plus en détail tout à l'heure, hein, mais qu'on voit là ressortir avec la réédition de Sanctuary et Junji Ito. Bah, que, bah, c'est pareil, on découvre pas trop de noms hein, ici. Le grand maître de l'horreur, bah, avec plein de titres très connus, mais voilà, Tomie, Spiral, ce genre de joyeuseté qui font peur.
Oui.
Et voilà, donc ils étaient tous là avec des expositions,
masterclass.
Des masterclass, et voilà. Plein de belles choses pour les fans qui se levaient très tôt ou même qui dormaient sur place.
Oui,
c'était compliqué.
On a eu vent, on en reparlera peut-être sur les points négatifs qui peut y avoir sur le festival. Oui, on a eu des files d'attente qui démarrent à 4h du matin, a priori.
Même la veille au soir, on m'a dit, ouais,
on a eu des trucs.
Ça avait l'air compliqué.
Voilà, ça suffit les gens.
Mais voilà, donc c'était vraiment une édition qui mettait en avant. Le manga, et nous ça nous fait plaisir évidemment.
Ah oui, c'est clair, parce que ça fait déjà, enfin là depuis les 5-6 dernières années, peut-être depuis 2015, donc ça fait plus que ça, mais peut-être depuis 2015 on a vraiment une ouverture significative, genre beaucoup plus forte,
et tous les ans ça s'accroît.
Mais après, le manga était déjà présent depuis déjà longtemps en Angoulême, notamment un des hauts faits entre guillemets de ça qui marque un peu cette histoire là c'était en 2009 où c'est Nonomba de Shigeru Mizuki qui avait remporté le grand prix d'Angoulême, par exemple.
Lisez Nonomba,
on en reparlera
très important. Oui, on va en reparler un jour.
Et voilà, donc ça c'était une chose aussi, c'est à peu près grâce ou à cause d'Angoulême qu'on avait eu la rencontre Taniguchi Mobius dans les années 90 qui avait donné lieu à Icar. Enfin voilà, c'est, on avait déjà du manga, mais là depuis quelques années, là ça a pris. De toute façon, le festival était obligé de s'adapter au lectorat manga qui explose.
À la demande et
actuellement.
Et justement, enfin, là ça s'est ressenti. On avait tout un espace nouveau, alors qui n'était pas forcément dédié qu'au stand,
non,
mais qui était dédié à accueillir le public qui venait pour du manga. Et on l'avait pas l'année dernière, cet espace.
Non.
Donc vraiment, il y a eu tout un espace en plus,
ouais,
juste cette année.
Donc, ouais,
ça se ressent tous les ans.
Ouais, carrément. Déjà, le Manga City a probablement grandi.
Oui.
Manga City, la bulle manga. Donc avec les exposants, les éditeurs manga directement, c'est là où on a les rencontres aussi et toutes les petites interviews, etc. qui ont pas besoin d'un gros amphi, qui sont là. Et aussi les auteurs en dédicace,
les maisons d'édition qui viennent avec des catalogues un peu plus pointus, les auteurs qui sont en dédicace.
Ouais, ça c'est un des bons points d'Angoulême.
Oui. Ah oui.
C'est tout ça. Et à côté, effectivement, le nouvel espace qui s'appelle l'Alligator, je crois, ou Alligator c'est le sponsor, je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus le nom.
Il était joli, mais je me rappelle
il
pas.
Il était joli. Ouais. En tout cas, il y a un alligator dans l'histoire.
Oui.
Je sais plus si c'est le nom ou le sponsor.
Ah, on aurait dû regarder ça.
Ouais. Et effectivement, qui est ouvert, qui double quasiment la taille de Manga City. Donc, lui, qui était effectivement. Alors, il y avait du goodies, manga.
Il y avait beaucoup de goodies, des stands de nourriture, boissons et un skatepark.
Oui, et on avait un half pipe, donc un peu manga culture urbaine. Il y a eu un lien.
Et donc, c'était tout mignon.
Ouais, donc pareil, ça va s'agrandir et aussi notamment.
Oui, donner plus d'espace.
Ouais, donner plus d'espace au manga.
Mais oui.
Et continuer comme ça.
Toujours
et
plus.
Aussi,
merci.
Le quartier manga comprend l'Alpha Médiathèque qui est située à côté de la gare et qui est l'endroit où en général il y a la grosse expo manga. Les autres expositions se font soit d'autres endroits comme par exemple Junji Ito qui est à l'Espace Franquin qui est une salle de spectacle ou Ryoichi Kegami qui était au musée d'Angoulême. En général, l'Alpha Médiathèque c'est la grosse expo manga, donc cette année évidemment elle était dédiée à l'Attaque des Titans.
C'était là qu'on pouvait voir de très belles planches en très très grand.
Oui, et puis une bonne mise en scène, hyper immersive avec genre des représentations du mur fissurées avec le titan à l'intérieur qui regarde.
Même la façade où t'avais les personnages avec les titans du coup en un peu plus grand que ce qu'on peut voir. C'était vraiment bien travaillé, c'était sympa.
Pure mise en scène en général, effectivement, l'Alpha Médiathèque.
Oui, ils font des gros efforts.
Ils font des gros efforts de mise en scène. Il y avait aussi, alors c'est pas là où il y a toujours les mangas, parce que par exemple c'était 2020, je crois, où il y avait l'expo Walking Dead là-dedans. Donc pareil, c'est souvent, mais ça reste souvent manga. L'an dernier, c'était là où il y avait l'exposition Fire Punch, Chainsaw Man de Fujimoto. Voilà, donc c'est un peu l'endroit. donc Angoulême. Maintenant, on a fait le petit tour d'Angoulême.
Voilà, voilà.
On va enchaîner. On va enchaîner après avec les sélections, les prix, parce que bah Angoulême, c'est aussi un endroit qui, au-delà de ses stands et du travail que fournissent les éditeurs, c'est aussi un endroit qui met en avant ces titres-là à travers ses sélections et ses prix. Mais on va reparler juste après. Un court morceau qui va sûrement vous dire quelque chose, normalement.
Voilà. Même moi, je le connais et j'ai pas regardé.
Même lui, il le connaît, il a pas regardé. Il a lu, mais il a pas regardé.
Exactement.
Qui va vous dire quelque chose. De toute façon, on a déjà parlé. C'était une évidence. On ne vous en dit pas plus. On se retrouve juste après.
De retour sur Radio Campus Po, donc sur Kachihun. On va partir donc sur la présentation des mangas qui étaient en lice dans la sélection officielle, donc pour le prix. Et ensuite, on va décliner un peu sur les autres mentions, donc qui étaient un peu plus spécifiques et moins comment dire ça de manière mignonne, moins grand. Ah,
moins grand public.
Ouais,
tout simplement. Voilà.
Merci bien. Et donc on commence avec Full Night parce que c'est le premier qui est sur ma liste. Donc Full Night de Kasumi Yasuda, donc qui est édité chez Glénat. C'est sorti en France il y a pas si longtemps que ça. On l'a eu il y a pas très très longtemps.
Ouais, en deuxième moitié de 2022.
Ouais. Et donc c'est vraiment un post-apo où il y a plus aucune plante sur la planète. Et des scientifiques ont trouvé une méthode alternative qui est de faire pousser des plantes dans des gens. Contre, évidemment, grosse rémunération. Et donc on va suivre un gars complètement paumé qui en a marre de vivre dans la pauvreté et qui va accepter ça. Et il va se rendre compte qu'il peut communiquer avec certaines plantes. Et donc ça va amener plein de petites choses rigolotes. Non, pas rigolote. Mais.
Non, ça a pas l'air drôle.
Non, c'est très très sérieux pour le coup, il y a très peu de vannes. Mais c'est hyper intéressant, c'est assez original. Et voilà, à voir comment ça se déroule, parce que là on est vraiment au début, mais. À voir, moi j'accroche bien, c'est rigolo. Toujours pas, mais c'est pas grave, c'est sympa à lire. Ensuite, on avait Darwin's Incident qui a pas mal fait parler de lui pour le coup, hors. Oui. France.
Gros buzz.
Ouais.
L'an dernier.
C'est ça. Et donc, qui est arrivé aussi. Alors, qui est écrit par Shun Umezawa. Je vais dire Shun, parce qu'on va dire que c'est ça. Et qui est édité chez Kana. Et là, on suit ce qu'on va présenter comme le chaînon manquant.
Oui.
Et qui va aller au lycée.
Oui, c'est ça.
Pour avoir plein de. Enfin, en fait, c'est des expérimentations d'interactions normales. Avec
un homme singe, plus ou moins.
Qui a toute la cognition qu'on pourrait avoir nous, mais qui est montré du doigt parce qu'il ressemble pas à
un humain.
À nous.
Qui aussi a son prisme quand même, qui est moins. Enfin son prisme de perception du monde, de réflexion, qui est altéré par. Qui est différent d'une autre,
c'est
justement
ça.
par son côté métis.
Qui est un peu hors case, et c'est très rafraîchissant.
Oh, c'est trop,
c'est
trop bien.
Très très bien traité et vraiment un plaisir à lire. C'est trop bien. Voilà, on enchaîne. Hein.
Bah oui,
on est sur une bonne lancée.
On était sur deux vrais candidats qui auraient pu gagner.
Ensuite, on a Place Beyond Heaven chez Pika de Masakazu Ishiguro. Il y a trop de consonnes, c'était compliqué. Mais j'ai tout fait. Et là aussi, c'est. On est encore sur un post-apo. Hein.
Ouais.
C'est plusieurs adolescentes, il me semble. Ça, la lecture remonte un peu, mais en tout cas, les personnages centraux sont des jeunes filles et qui sont élevées dans une espèce de centre coupé du monde. Et donc, leur vraie envie, ça va être de découvrir ce qu'il y a hors de leur mur. Et ça va être un peu compliqué d'en sortir. Donc là, après, c'est un peu dur de rentrer dans les détails.
Sans spoiler.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, il était là. Les dessins sont assez rafraîchissants. Moi, ils me font penser à... Enfin, ils me donnent envie de relire Planète, en fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça.
Il y a un vrai truc. Hein.
Il y a un peu de ça. Moi, ils me font un peu penser... Alors, moi, je connais moins, mais sur la couverture, ça me fait... Un peu l'expression des persos me font penser à Mushishi.
Il y a un peu de ça aussi, ouais. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de dessin qui est pas forcément alternatif, mais qu'on n'a plus trop l'habitude de voir en manga ces temps-ci.
Oui, surtout pas dans la production jeunesse. En
plus. C'est ça. Et donc, vraiment, sans transition du tout, on passe sur Gannibal.
Était nominé également.
Manga d'horreur chez Meian de Masaki Ninomiya. Donc là, c'est une famille dont... Alors, nous, on va suivre un policier qui s'installe dans un village reculé et qui amène sa famille avec lui. Et en fait, comme le nom l'indique, hein, ils vont arriver dans un village... Alors, au début, c'est des suppositions qui vont être très très vite confirmées de cannibalisme. Voilà, voilà.
Ouais. Bon résumé.
Et après, voilà, ça va être comment ne pas se faire manger.
Oui.
Et comment, vraiment garder sa famille en sécurité tout en essayant, dans un premier temps, de résoudre le problème et comme il le dépasse complètement, essayer de trouver de l'aide et voilà.
Ouais.
Gros manga d'horreur.
Ouais, c'est un pur survival.
C'est pas mon truc parce que moi, les mangas d'horreur, c'est compliqué, mais. Voilà, hein. C'est une nouvelle sortie qui fonctionne très bien.
Oui,
le dessin fonctionne très bien aussi.
Mmh. Ah oui, c'est vrai, le dessin est cool.
Ouais.
Dessin très nerveux.
Vraiment, c'est ça. Ça sert vraiment bien le propos.
Ouais, puis de toute façon, s'il est là quand même, je dirais, parce que c'est pas une œuvre qui est dénuée de qualité.
C'est ça. Tous les nominés, que ce soit manga ou pas, méritent leur place là où ils sont de toute façon. Hein. Et voilà. Et ça, c'était ma partie de la sélection officielle.
C'était ta partie. C'était donc j'enchaîne. C'est, voilà. C'était Tristan.
Au revoir.
C'était Tristan. Mais non, il revient. Bon, moi, j'enchaîne avec les deux derniers mangas qui étaient en lice en sélection officielle. Donc avec La Princesse du Château sans fin de Shintaro Kago, qui est publié depuis l'an dernier chez Hubert Édition. Donc c'était l'occasion de mentionner, on en avait déjà parlé dans le point actu de l'épisode pilote, comme quoi Hubert Édition, qui est un éditeur palois.
Et oui.
Donc,
c'est
GG.
Encore plus que Cocorico là.
Là c'est GG nous. Là c'est Addy Chat. Non, c'est. Mais voilà, c'est un éditeur qui est pas loin, que vous retrouverez de toute façon à côté, entre les deux, Bashibuzouk, qui a son petit spot, là où il y avait Bashibanga avant, vous voyez le périscope. Voilà, donc qui est ici, donc qui édite du Shintaro Kago, enfin qui se partage Shintaro Kago avec Iemacho. Shintaro Kago, présentation rapide, comme j'avais fait la dernière fois, si vous n'avez pas écouté le pilote, shame on you.
Écoutez-le enfin, bande de gentilles personnes.
Donc Shintaro Kago, c'est un de ses auteurs très reconnus dans l'Hero Goro, donc style plus ou moins ancestral japonais, qui était déjà présent dans les estampes, la littérature, etc. Qui mélange l'horreur grotesque avec l'érotisme. Sauf que lui mélange la drogue, le surréalisme et les multiplications de choses.
C'est perturbant à regarder.
Ah ouais, je rêverais de voir une version de Naruto dessinée par Shintaro Kago.
Moi je voudrais pas être dans sa tête. Vraiment, ça a l'air compliqué.
Bah moi non plus, mais c'est un artiste vraiment exceptionnel qui fait toujours des œuvres intéressantes.
C'est beau.
Et la princesse du château sans fin, c'est... c'est probablement une de ses œuvres les plus dures à lire, je pense, mais à la fois une des plus intéressantes, qui nous montre deux personnages qui sont dans le Japon féodal, qui vont découdre un seigneur et son vassal de mémoire, qui ont un compte à régler, qui vont se battre, et en fait à partir du moment où l'issue du combat est dévoilée, la temporalité du récit va se scinder en deux. Donc ils vont être représentés justement par ce château sans fin, donc un château féodal qui s'élève dans le ciel continuellement, qui représente une ligne chronologique qui va se couper en deux et qui va continuer d'évoluer. Et en fait, tout le manga va s'évertuer à nous montrer chaque possibilité de ces timelines et de tous les embranchements qu'il peut y avoir. C'est abusé à lire. Voilà, et en plus, il y a plein d'idées de mise en scène, c'est incroyable. Et pour le coup, le côté horreur érotique est quand même mis un peu au second plan. C'est juste dédié à certains passages. Donc si jamais vous êtes sensible par rapport à ça, c'est relativement accessible.
Il y en a moins.
Voilà, il y en a moins que dans d'autres œuvres à lui. Voilà, donc qui était nominé également. Donc c'était juste histoire de mentionner Hubert Édition, parce qu'on est content que normalement il nous réserve plein d'autres Shintaro Kago et d'autres mangas qui, on l'espère, vont être extrêmement qualitatifs. Mais vient le temps de parler du seul manga lauréat dans cette sélection. Et quel manga ! Quel manga, c'est Les Liens du Sang, donc le tome 11 des Liens du Sang, qui était nominé de Shuzo Shimi, qui a remporté le titre de meilleure série. Et oui,
enfin, bon, après là c'est pareil, hein, si vous êtes un peu sensible à...
Ouais.
Attention.
C'est vrai que moi je m'occupe un peu de la partie des trucs compliqués.
T'aurais dû faire Gannibal.
C'est clair, oui c'est vrai. C'est vrai. Mais alors Les Liens du Sang, pour vous faire un résumé gentil. Parce que bon, ça va être compliqué, mais juste un truc en fait qui va vous donner une idée de l'histoire. C'est le récit d'une relation abusive entre une mère qui vraiment a sa santé mentale qui part totalement cacahuète, et de son fils de 12 ans qui est prisonnier de ça et qui va essayer de s'extraire de cette relation. Donc c'est ça, sur du coup 11 tomes pour l'instant en France.
C'est beaucoup d'interdépendance très malsaine.
Ouais, très très malsaine. Et voilà, et Shuzo Shimi en fait c'est un auteur qui est centré en fait sur le côté malsain des relations à l'adolescence. C'est vraiment le gros de son œuvre, et c'est toujours incroyable.
Il est trop doué.
Il est trop fort
pour un public sensible.
C'est ça. C'est...
Il le rend trop bien.
C'est ça.
C'est trop ça. Viscéral.
Ouais. Ouais,
c'est vraiment. On ressent vraiment tout.
C'est le mot. C'est ouais. C'est hyper prenant. C'est en plus, il a une manière d'écrire. C'est un page turner absolu. Peu importe ce qu'il écrit, c'est des tomes qui s'avalent.
Ah ouais.
Oui. Ultra rapidement.
C'est très peu rentable.
Ouais.
Un achat de cet auteur-là, c'est très peu rentable.
C'est très peu rentable et traumatisant. Donc, je sais pas si on vous.
C'est bien vendu tout ça.
Si on peut vous conseiller. Enfin, mais après, moi pour le coup, c'est probablement mon manga préféré de toute la liste. Ça fait partie de mes mangas.
C'est très intéressant à lire, mais il faut être prévenu.
Ouais, il faut être accroché. Après, je pense que c'est aussi un de mes mangas préférés tout court, Les Liens du Sang. Donc très heureux de le voir récompensé ici, sachant que en plus surtout ce qui est récompensé et ce qui est cool, parce qu'ils auraient pu le mettre par exemple en polar, il y a une sélection polar, on vous en parle après.
On arrive.
Mais ils auraient pu le mettre en thriller, enfin le traiter comme ça, mais là je trouve ça intéressant qu'ils aient récompensé le fait que ce soit une série. Enfin l'aspect sériel, parce que effectivement, il n'arrive pas un tome sans qu'on prenne un cliffhanger de malade. L'attente est archi longue, parce qu'on a en général un à deux tomes par an. Voilà, en plus c'est des éditions Kiun, donc des bonnes briques, bien solides, bien éditées, toutes belles. Voilà, donc en fait c'est hyper cool que le mérite soit attribué au fait que ce soit une série, parce que c'est l'écriture, le développement sur le temps long, c'est un des gros points forts de Shuzo Shimi. Dont la lecture de tout ce qu'il a fait est très recommandée, mais
oui.
Soyez accrochés. Alors il y a des choses beaucoup plus accessibles.
Il y a des choses beaucoup plus accessibles, mais ça, c'est jamais très safe.
Ouais, à part Shino ne savait pas prononcer son nom, qui est un petit one shot.
C'est vrai.
Adorable.
Oui.
Sur une personne qui a des
ça
troubles du langage.
Ça part pas feel good, mais ça le devient.
Ouais, c'est adorable, mais par contre tout le reste.
Oui.
c'est le puits du désespoir.
Vraiment.
C'est voilà.
Et il est très profond.
Mais ouais, il y a des à la limite peut-être une bonne porte d'entrée si jamais vous vous sentez pas d'attaquer quelque chose d'aussi fort que Les Liens du Sang, ce sera Happiness, qui est une histoire de vampire, basiquement. C'est trop bien, mais traité à la sauce au chimie. Donc il y a toujours un petit côté malsain, un peu interdépendance. Il y a toujours aussi quelque chose d'un peu érotisé aussi. Il y a toujours il y a toujours les questions de sexe, d'envie, de désir qui sont aussi dans ces mangas, donc je vous laisse pas imaginer ce que ça joue, ce que ça donne dans un manga avec une maman et son fils. Voilà. Mais mais bon, enfin c'est trop cool, Shōzō Chibi, et sans transition, on va sortir de ça pour quand même ne pas aborder quelque chose de plus gay, mais un titre qui mérite le coup, c'est on va parler de la sélection patrimoine, donc qui va récompenser des œuvres quand même qui sont éditées, enfin des nouvelles éditions d'œuvres qui ont été, dont la première parution date, et le gagnant est aussi un manga. Donc là, bravo. Ce sont nos deux gagnants.
Mais ouais.
Il n'y en aura pas d'autres.
Mais oui. Et justement, on disait que le manga s'étendait de plus en plus à Angoulême, mais ça se reflète aussi dans les sélections et les lauréats des prix.
C'est vrai.
C'est qu'on en a, enfin. Alors, je vais pas dire jamais, parce que il y en a eu, et je saurais pas dire, mais c'est quand même rarement aussi prof, aussi rempli de mangas, et qu'on a deux gagnants.
C'est vrai. On en a rarement autant eu, je pense, et après, sans dire de bêtises, on en a rarement autant eu de gagnants aussi.
Ouais.
Donc c'est cool, et c'est pour ça, nous, qu'on fait ça.
Ça fait plaisir.
Exactement.
Évidemment.
Bah oui, à fond. Mais c'est pour ça que nous, on fait ça. C'est que l'idée de vous présenter les sélectionnés, même qui n'ont pas remporté leur prix,
ça reste de la très bonne qualité.
C'est ça. En fait,
c'est pour ça qu'on fait pas un point actu, c'est qu'on conseille plein de trucs.
Oui, là c'est le prétexte en fait. C'est plus ou moins qu'on vous présente à la fois le fait qu'Angoulême pose ses yeux sur des titres assez variés. Hein, là, on en est qu'au début. Oui. Encore, on en a eu quelques-uns, mais vous verrez. Mais et voilà, et comme ça vous permet de découvrir plein de petites choses. Donc pour revenir à la sélection patrimoine qui a été remportée par Fleur de Pierre de Hisashi Sakaguchi, qui est le premier manga, je crois, édité par les éditions qui sont assez récentes, les éditions Revival, qui visiblement, selon leur dire, de toute façon selon le nom, vont éditer probablement des œuvres plus ou moins anciennes et les remettre au goût du jour. Et dans de magnifiques éditions, parce que l'édition de Fleur de Pierre, donc, qui est un manga en 5 volumes, magnifique. Le tome coûte 30€, mais les 30€ sont bien investis, c'est trop beau, c'est couverture rigide, c'est immense, le papier de qualité, il y a une préface, il y a une contextualisation, c'est fou. Mais c'est pas que pour ça que Fleur de Pierre se retrouve à cette position, tout simplement parce que Fleur de Pierre, c'est un pur récit incroyable de guerre. Alors pas de guerre sur le Japon, c'est une guerre européenne, donc en fait on va suivre le conflit, ça se passe en Yougoslavie, de mémoire. Et on va suivre nos personnages. Oui, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie où on va être on va être immergé au cœur du récit. Et le Fleur de Pierre bénéficie de sa période, donc qui a été publiée au milieu des années 80. Et donc, qui dit milieu des années 80 et manga adulte dit dessin influencé par Katsuhiro Otomo. On est clairement sur le bon gros seinen post-Akira, donc avec le dessin, la mise en scène, la maestria de grandiloquence, de détails. Voilà, c'est fou. Et vu que c'est mis au service d'un récit de guerre, autant vous dire que niveau mise en scène, émotion, on passe par tout. Et voilà, enfin c'est hyper cool à lire. C'est aussi intéressant parce que c'est évidemment un récit qui va traiter du nazisme, vu que on est en Europe de l'Est et que les nazis se sont avancés d'abord vers ce front-là avant de revenir sur l'Occident. Donc en fait ça va traiter c'est intéressant à la fois un récit japonais qui traite de la Seconde Guerre mondiale sans parler de sa propre histoire, qui est une histoire malheureuse et extrêmement riche, donc qui traite de l'Europe, mais en plus de ça qui va vraiment traiter frontalement le nazisme à une période où au final la fin de la Seconde Guerre mondiale n'était pas si lointaine. On était à peine 40 ans d'écart. Déjà la blessure japonaise n'est pas encore totalement refermée, puis même mondialement. Voilà, donc lisez Fleur de Pierre et ravi que ce récit ait été récompensé, et surtout que c'est joli pour Revival, qui est un tout petit catalogue actuellement, qui est déjà une œuvre qui soit là, parce que Fleur de Pierre avait déjà été édité en France, je crois. Et là, c'est super cool de le voir revenir. C'est probablement une œuvre dont vous n'aurez pas entendu parler sans ça, mais lisez-le. C'est extrêmement conseillé.
Pareil, ils vont gagner tous les prix patrimoine des années à venir.
J'ai envie. Hein. moi qui continue à éditer ce genre de trucs, je serai ravi. Maintenant, on va pouvoir passer à la sélection suivante.
Allez, sélection jeunesse.
Sélection
c'est
jeunesse.
Parti. Et alors là, il y avait deux titres en lice, bon, qui n'ont pas gagné, mais ils étaient là. Et voilà, hein, faut quand même le noter. Donc on avait Orimiya qui a fait un énorme boom, même avant sa parution en France. Donc c'est une romance lycéenne, alors qui s'éloigne un peu des classiques. Même si on a quand même le protagoniste féminin et le gars ténébreux, mais c'est quand même très bien traité en profondeur. On va voir vraiment les désirs et les réflexions de chacun. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très intéressant à lire. Après, je mets un petit... un petit warning, c'est pas pour de la jeunesse. Il y a vraiment des réflexions et des situations qui sont pas du tout pour un public très jeune. Donc à voir après à la lecture. Hein, mais donc voilà, c'est Orimiya de Daisuke Agiwara chez Nobinobi et Hero. C'est vrai qu'ils sont
deux dessus. Il y a un scénariste également.
C'est ça. Mais voilà, vraiment, c'est rafraîchissant en fait de voir une romance. Traité, on en a de plus en plus quand même, hein, mais c'est vraiment traité d'un point de vue mature, même pour des lycéens, il y a vraiment des réflexions qui sont très, très intéressantes à suivre. Voilà, donc Orimiya, et on avait aussi Boys Run the Riot, donc toujours dans la sélection jeunesse, de Keito Gaku chez Akata. Et voilà, alors celui-là aussi c'est pareil, on en parle pas mal depuis l'année dernière. Voilà, c'est en 4 tomes, c'est vraiment un parcours d'identité. Avec des planches très très belles, un gros travail graphique, notamment sur un énorme tag dans le chapitre 1 qui est magnifique. Voilà. C'était notre sélection jeunesse. Boys Run the Riot, c'est un peu plus... je peux pas trop en parler parce que tout ce qui est discutable et intéressant de discuter, ça relève du spoil, surtout dans un manga de 4 tomes où tous les événements vont être importants. Donc c'est... ça existe.
C'est là, et c'est en sélection. Oui. C'était en sélection. Voilà, et deux mangas qui étaient accompagnés de deux autres en sélection jeunesse. On avait également le premier tome de Ranking of Kings,
oui,
de Sosuke Toka, qui est édité chez Kiun, qui avait déjà... le premier tome, d'ailleurs là on en est au sixième, qui est sorti début février, la semaine dernière il me semble. Donc là maintenant on en a six tomes au moins, je crois que c'est le sixième. Qui a eu son premier tome sorti en début d'année dernière, mais qui avait déjà un peu buzzé parce qu'il avait fait partie des animés de l'automne de 2021. Donc Ranking of Kings, personnellement c'est un gros coup de cœur. C'est un manga que j'adore. Alors pareil, Ranking of Kings, il a été un peu remarqué pour ses dessins très très enfantins.
Ouais, c'est particulier.
C'est design...
Dans l'histoire et dans la manière de la raconter, c'est quand même... c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire.
Non. Et
c'est très agréable.
Et justement, parce que du coup, Ranking of Kings a ce chara-design et même un peu ses designs un peu mignons, tout ronds et tout. Mais attention, pas mettre devant n'importe quels yeux.
C'est pas du tout pour enfants.
Non, alors Angoulême le recommande à partir de 14 ans, je trouve ça bien,
oui,
parce
14,
que même
c'est bien.
Alors après je peux comprendre Kiun qui le mettent dans leur collection enfant parce que vu les dessins, on peut pas le marketer à côté de ce qu'ils ont, à côté de choses comme Prophétie ou Léviathan là, qui est sorti, qui ont vraiment un design hyper adulte et réaliste, mais là en fait Ranking of Kings c'est littéralement Game of Thrones. Sauf qu'on suit notre personnage principal, donc là on n'est pas sur un récit choral, mais notre personnage principal c'est un prince très très pur qui a la volonté de bien faire et tout ça, mais qui est sourd et muet. Et qui se retrouve au milieu, en fait, qui doit hériter du trône, mais personne ne veut qu'il ait ce trône. Et donc il va se retrouver au cœur de plein de manigances politiques, et en plus de ça, une des choses qui fait qu'il n'est pas apprécié au-delà de son handicap, c'est que c'est un prince qui au début n'a pas spécialement envie de combattre la force brute et défaire ses adversaires, ce sont pas des choses qui l'intéressent.
De toute façon il est très faible donc il pourrait pas.
Oui, lui il est là pour l'esquive et par contre il est très bon à ça. Mais à côté de ça, bah voilà, il est pris au milieu de tous ces jeux de manigance et il en bave, le pauvre Bodhi.
Tout ce qu'il veut c'est des copains donc.
Oui, bah il veut des copains, il veut bien faire, parce que lui le trône, ouais. Pourquoi pas.
Il est adorable.
Il veut bien faire. Et c'est trop bien, enfin c'est un pur récit de résilience avec un héros trop cool et qui est pas nié du tout en plus. Hein. Alors Bodhi, ça peut paraître très simpliste, et c'est vrai que le manga on peut avoir cette idée là, mais non. En King of Kings, c'est impitoyable, hein.
Ouais.
C'est trop cool. Et voilà, il est en sélection, alors jeunesse, alors pour les grands jeunesse. Enfin voilà, c'est réservé à l'adolescence pure, mais récit conseillé, donc c'est très cool qu'ils soient en sélection. Et on a aussi, alors de manière plus étonnante par contre, la concierge du grand magasin de Tsushika Nishimura, qui est édité chez Lézard Noir. Donc c'est, je crois, le second titre de cet auteur-là chez Lézard Noir, qui avait édité Au revoir Mina, qui était une histoire de post-romance lycéenne, ultra psychée, très poétique, très barrée, enfin très libre dans son adaptation. Et la concierge du grand magasin, c'est reprend un peu les tropes de l'auteur, un peu ses lubies un peu surréalistes et absurdes, mais sans que ça tombe dans un côté gag, hein, c'est juste le monde n'est pas fait comme nous. Ça se rapproche peut-être de Quentin Dupieux, un peu, pour ceux qui voient. Donc là, ça nous parle d'une femme en fait qui réussit à avoir un travail dans un grand magasin dont les clients sont des animaux. Et elle doit satisfaire ces animaux qui ont des requêtes très précises. Et en fait, voilà, ça va être toute l'idée de faire ça. Donc, comprendre ce qu'ils veulent, les satisfaire. Donc, c'est généralement de la bouffe, hein, des choses comme ça, diverses. Et ça va être l'idée. Et on va suivre cette histoire-là. Enfin, c'est marrant, c'est cool, c'est détente. C'est assez particulier comme lecture. Il a un style très... Enfin, voilà, de toute façon, Lézard Noir. Hein. Lézard Noir, on est sur un éditeur qui aime bien... éditer des choses qualitatives et aventureuses, et là ça en fait partie, donc c'est vrai que je l'aurais pas vu spécialement en jeunesse, mais pourquoi pas, bon, peut-être qu'il fallait le caser quelque part et c'est là où ça se mettait le mieux, mais voilà, enfin la concierge du grand magasin, c'est cool à lire. Moins d'amour que pour Ranking of Kings juste avant, mais très très conseillé. Allez-y, voilà. Et c'est ce qui clôt d'ailleurs notre sélection jeunesse.
Voilà. Et donc le dernier dont je vais parler, c'est sur la sélection polar, où on avait Lost Lad London qui est sorti là cet hiver en France, de Shinyashima chez Kiun. Et donc c'est une série très courte, hein. On a 3 tomes. D'enquête où on va avoir notre personnage principal qui est accusé d'un meurtre qu'il a évidemment pas commis, parce que sinon ça serait pas très intéressant à suivre, je pense. Mais il va être aidé par un vieux policier qui en a plus trop grand chose à faire des règles et qui veut l'héberger. Et donc ils vont essayer justement de trouver l'auteur du crime. Et ce qui est très très intéressant, c'est que tous les personnages, tous les personnages qui vont être présentés vont être vite détaillés. On va avoir toujours des petits points de personnalité qui vont transparaître dans des dialogues ou dans des manières de faire. Et donc on va très vite connaître le casting, même s'il est assez réduit, et les interactions vont aider à ça aussi. Et c'est très intéressant parce qu'on s'attache à ces personnages et c'est vraiment très agréable de les suivre, de voir plein de points de vue différents et des identités vraiment atypiques. Typiquement, le protagoniste, il est assez détaché du monde. Il est pas plus chamboulé que ça de son nouveau changement de vie. Il est vraiment détaché et ça change un peu, c'est intéressant. Et voilà, puis les dessins aussi sont assez spécifiques. J'ai bien aimé, c'est très agréable à lire.
Voilà. Encore un titre Kiyun.
Exactement, après Kiyun qui régale.
Kiyun il trust un peu, hein, c'est vrai, ils font plaisir.
Et voilà, moi c'était ma sélection. Enfin, c'est pas ma sélection.
T'as parti de la présentation.
Exactement.
De ma sélection.
C'était le manga qui a concouru en polar.
Ouais, qui était le seul également.
Oui.
Voilà, qui n'a pas remporté la sélection. Et on va terminer avec la dernière sélection. Donc c'est la sélection Eco Favraja, donc qui est destinée aux œuvres à portée écologique et ou environnementale, développement durable. Et le seul manga en lice pour cette sélection, qui n'a pas remporté le prix non plus, c'était le tome 1 de Planète de Makoto Yukimura, dont nous avions déjà parlé aussi dans l'actu.
Lisez Planète,
par rapport à la réédition. Lisez Planète, édité chez Panini Manga, donc qui est trouvable actuellement dans la nouvelle édition, donc en 3 tomes double et demi, qui remplace la grosse brique en couverture dure qu'il y avait avant. Alors Planète, on avait déjà parlé, mais pour un résumé simple, on va suivre 3 personnages, mais principalement un qui s'appelle Hachimaki, qui est éboueur au début, enfin qui est sur une station.
Ouais, c'est l'éboueur de l'espace.
Ouais, c'est ça, qui est sur une station spatiale avec 2 autres personnes, une femme afro-américaine et un spationaute russe.
Ouais, je crois qu'il est. Oui,
il est de l'Europe de l'Est, sûr. Et en fait, ça va être. C'est plus ou moins. Enfin, c'est un récit de science-fiction qui se passe dans un futur proche, je crois que c'est. Enfin, futur proche. C'est autour des 2100.
Voilà,
2075
a été colonisé. Et...
C'est ça, l'espace est colonisé.
Bien implanté dans la colonisation.
Ouais.
C'est pas le début.
Non, c'est pas le début.
Il y a
ouais.
des gens qui sont nés sur d'autres planètes.
Ouais. Et tout fonctionne. En fait, c'est vraiment un récit qui va par plusieurs situations. Alors, avec toujours le fil rouge de ces personnages-là, surtout Hachimaki,
ouais.
surtout son développement, ça va être poser des questions sur ces personnes-là. Ces personnes-là vont avoir beaucoup de. De choses qui les travaillent, qui travaillent leur psyché, qui les tracassent, enfin beaucoup de problèmes à résoudre. En fait, l'espace va être décliné comme un terrain de jeu, d'expérimentation pour ces choses-là. Donc on va traiter de la solitude, des problèmes de tolérance, de l'appartenance, de l'éloignement, de la famille, et à chaque fois dans des chapitres ou 2-3 chapitres qui se suivent, qui vont aborder ces thèmes-là, avec des roulements. Et c'est fantastique. C'est que ce soit la mise en scène. De toute façon, vous connaissez cet auteur pour Vinland Saga, probablement. Voilà, dites-vous que toutes les qualités que vous adorez dans Vinland Saga se retrouvent dans Planète.
Sinon, lisez Vinland Saga.
Lisez Vinland Saga. Si vous connaissez Planète et pas Vinland Saga, voilà, un auteur formidable qui a vraiment cette capacité à nous plonger dans la psyché de ces personnages, à nous faire comprendre tout ce par quoi ils passent. Mais là, en plus, avec un côté hyper contemplatif, c'est à la fois une déclaration d'amour pour l'esthétique science-fiction spatiale, space opéra, mais aussi, qui traite de manière très très juste et pertinente, des vrais problèmes par lesquels on peut passer, quoi, des fois de dépression.
C'est peut-être. Très introspectif.
Ouais.
Étonnamment, ça reste tout le temps très
optimiste.
Très optimiste.
Ouais, c'est vrai que c'est pas triste. Enfin, il y a des moments qui font bas des bien
oui,
vénères, mais c'est jamais. Ouais, c'est jamais. En fait, c'est
y a
jamais
un peu
complaisant.
De mélancolie, mais
ouais,
c'est jamais
ça,
triste.
C'est jamais complaisant avec sa tristesse. En fait,
ouais.
On n'est pas là pour faire juste de la tristesse ou de l'émotion pour l'émotion. Il y a toujours un propos et le propos est toujours hyper intéressant. Et les personnages sont trop cool à suivre.
Oui.
En plus. Voilà, lisez Planète, et c'était cool qu'il se retrouve en sélection.
Oui.
Mais c'est dommage qu'il n'ait pas gagné.
Mais qu'il vienne un jour à Angoulême, on lui fera un coucou.
Oui, tellement. Qu'il vienne.
S'il vous plaît.
Donc là, on est sur les sélections officielles qui sont organisées par le festival. À côté de ça, on peut mentionner le fait que nos 3 mangaka superstars invités ont eu leur distinction.
Évidemment.
Donc Hajime Isayama qui a reçu son FOF spécial, qui, voilà, parce que à peu près invité d'honneur. Grande pompe, etc. Puis aussi une reconnaissance pour son œuvre, c'est cool pour un auteur aussi jeune, mine de rien, avec une seule vraie œuvre.
Oui, c'est ça.
Qu'il ait eu autant de mise en avant après. Quelle œuvre, hein.
L'attaque des titans.
L'attaque des titans, les gars. Et après, on a eu Junji Ito et Ryoichi Kigami qui ont eu toujours tous les deux leur fof d'honneur. Junji Ito, de toute façon, son statut de maître de l'horreur actuel n'est absolument pas usurpé.
Ils avaient déjà leur réputation,
oui,
de toute façon.
Dans tous les cas, c'est clair.
Donc c'est toujours agréable de les voir couronnés d'un truc de plus.
C'est clair. Et Ryoichi Kegami, lui qui est peut-être moins connu en France, à part pour les lecteurs qui ont pris toutes ses premières éditions dans les années 90 ou ceux qui le découvrent maintenant. Voilà, mais qui est une légende du manga, qui a commencé dans le polar dans les années 80, qui a travaillé avec les plus grands, Kazuo Koike, Bronson. Là, actuellement, avec Inagaki, le scénariste de Dr. Stone, et de Eichil 21 avec qui il fait l'histoire à Trillion Game. D'ailleurs, Inagaki qui était présent sur le, sur le festival, invité par Glénat.
Qu'on n'a pas pu voir, lui.
Qu'on n'a pas pu voir, parce que bah, très prisé. Mais on a pu voir Ikigami.
On a pu voir Ikigami.
On a pu avoir la petite dédicace d'Ikigami, le petit chèque mignon de ce vieux
monsieur tout jeune.
Ah ouais, trop gentil.
Oui, il est adorable.
Et voilà, donc c'est super cool de les voir récompensés. Et bah, on espère, de toute façon, a priori, c'est le chemin qu'emprunte le festival, mais que ça va aller.
En voir toujours plus.
Crescendo. Et bah, un peu comme on a vu Rumiko Takahashi qui avait été qui avait eu la distinction du festival Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. C'est trop cool que des personnes comme ça aient, bah, soient reconnues à ce point par le festival le plus prestigieux dédié à la bande dessinée. Et aussi petit point pour terminer les sélections. Et après on va vous parler un peu plus voilà, enfin on va, ça va être juste une petite discussion sur le festival, notre un peu notre périple, notre festival. Et c'est parler du prix Konishi qui est un prix qui est Angoulême, qui se fait, alors d'ailleurs auquel on peut assister. Les remises de prix d'Angoulême, c'est des prix qui se font avant le festival, donc qui sont en général accessibles qu'aux presses ou aux professionnels. Mais le prix Konishi, en fait, on peut y assister, c'est dans la petite salle de conférence qu'il y a à Manga City. Donc il y a un prix qui est décerné aux traducteurs, à la traduction de manga. Et voilà, donc il récompense le travail d'adaptation, l'écriture, la traduction. Et qui cette année a été décerné à Sylvain Chollet pour Die Dark.
Die Dark, merci à lui.
De Kyo Ishida, merci à lui. Donc Die Dark à décrire.
Lisez Doro et Doro,
ouais,
et c'est dans l'espace.
Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, effectivement, bah, déjà Doro et Doro, sur lequel il avait travaillé également.
Oui, c'est pour ça.
Et de la même autrice, ouais, Kyo Ishida, en fait, on suit un ado dans l'espace, en fait, qui a des os qui lui permettent de plus ou moins se métamorphoser en dieu de la mort. Et ces os sont ultra prisés par toute la pègre de l'espace. Voilà. Et donc il essaye d'échapper à la pègre. Sauf que c'est traité.
Comme un buddy movie.
Comme un buddy
c'est
movie.
C'est un road trip.
C'est un vrai road trip buddy movie, mais comique. Enfin, c'est très particulier, c'est absurde. Enfin, Dorodoro, c'est un peu le même ton. Hein.
Oui.
C'est Kyo Ishida, c'est une autrice qui a vraiment une manière de traiter ses persos. De manière, ouais, très. T'es presque naïve. Les situations, elles sont absurdes. Il n'y a jamais trop rien de grave. Et à la fois, on voit des trucs horribles.
Mais
qui
moi,
se
vraiment,
passent, mais ça,
quand on l'avait lu pour la première fois, ça m'avait vraiment fait penser à Borderlands 2.
Ah ouais, mais grave.
Doro et Doro, c'est le manga Borderlands 2.
Ah oui, Doro et Doro, clairement.
Pas dans l'aspect post-apo, mais vraiment dans les interactions et les personnages.
Ah, tout à fait.
C'est complètement cette écriture-là. Donc, si vous avez joué au jeu. Sinon, faites-le.
Oui.
Mais bon, on parle manga. Mais ouais, Doro et Doro, c'est très compliqué. Et Die Dark, c'est pareil, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Enfin, parce que c'est pas très descriptible. C'est vraiment sur des situations qui sont complètement absurdes.
Ouais. Mais il faut le lire en fait. Mais c'est. En fait, c'est un peu comme si vous lisiez du coup des mangas avec des thèmes assez sérieux et des situations hyper graves. Mais scénarisé et pensé. Par le Toriyama de Dr. Slump.
Mais avec des personnages qui ne dramatisent pas du tout.
Non,
parce que pour eux, c'est un quotidien et c'est des choses qu'ils peuvent gérer.
Oui.
Parce que dans Die Dark, ils ont un trio à peu près de personnages complètement éloignés du commun des mortels où ils sont immortels, ils ont la main sur un peu tout. Et donc, pour eux, des situations qui sont complètement inextricables.
Ah ouais.
C'est du quotidien et c'est complètement gérable.
Ah ouais.
Donc, ils sont là, ils traversent tout. C'est un peu le feeling qu'on a eu quand on a découvert Saitama dans One Punch Man.
Ouais.
C'est
même
vraiment.
Jojo aussi.
Oui, ou Jojo.
Un peu ça aussi.
C'est vraiment le drame, mais dédramatisé.
C'est ça. Et en plus, avec un dessin. Cradingue au possible.
C'est très très sale.
C'est parfait. Et du coup, c'est cool que quelqu'un qui ait travaillé sur ça, enfin non, Sylvain Chollet, sont récompensés parce que je pense que adapter Kyuichida, alors évidemment nous on n'a pas les versions japonaises, donc on peut pas dire si c'est bien traduit, mais on imagine que oui, parce que vu que ces personnes sont dans un autre monde et ont en plus une manière de parler qui est très particulière, enfin effectivement il y a cette chose hyper dédramatisée,
c'est
mais
toujours
à la fois
très familier
ouais, puis souvent avec beaucoup de néologismes, enfin il y a des trucs très enfin vu que c'est pas du tout notre univers, il y a plein de choses qui sont adaptées à ça, qui ont des noms particuliers, des principes très compliqués. Je pense que ouais, genre Sylvain Chollet a dû vraiment se casser la tête à se mettre dans la tête de l'autrice, et sachant que c'est lui aussi qui avait traduit Dorodoro. Et voilà, donc c'est Chambé qui soit récompensé. En plus de ça, bah Sylvain Chollet, c'est quand même pas n'importe qui hein, en termes de traduction. On est sur le traducteur de l'Attaque des Titans et de Before the Fall. On est sur le traducteur actuel des Gutanabe, donc les adaptations de Lovecraft. On est aussi le cœur, voilà, oui. Sur la première traduction de One Piece.
Voilà.
Alors évidemment, bon alors. Voilà, les puristes, Usopp, c'était Pipo. Sanji devenait Sandy, mais on a eu des trouvailles exceptionnelles. Voilà, donc sur lesquelles on peut pas parler exactement, parce que là, c'est des éditions qui sont plus trouvables,
oui, plus
hors
trouvable
occasion.
Et... Mais persuadé que les blagues restent drôles, mais,
oui.
Mais voilà, nous, on connaît les anciennes par cœur, donc forcément.
Et merci beaucoup à lui.
Oui.
Merci beaucoup à lui, et voilà, c'est charmé, parce que c'est vrai qu'en plus, traducteur de manga et adaptateur, ça va pas être simple.
Ben ça,
donc c'est trop bien qu'un prix.
Voilà, c'est bien de mettre en avant les traducteurs aussi, parce que c'est une partie du média qu'on consomme. Donc,
ouais, et puis c'est aussi une partie de l'appréciation aussi.
Oui,
c'est-à-dire que quelqu'un qui traduit et adapte bien, ça fait partie du succès.
Oui.
Enfin, le fait qu'un manga va nous faire rire, qui va nous émouvoir, etc., c'est pas que le dessin.
C'est du travail de réécriture.
Voilà, parce que sinon on parlerait tous japonais, et voilà, mais c'est pas le cas. Voilà, donc là c'est un petit tour d'horizon, comme vous l'aurez compris, avec ce travail de passant en revue un peu les sélections, en mentionnant les gagnants et la plupart qui n'ont pas eu leur titre, c'était surtout l'occasion de glisser des noms, voilà, de petites rêves si jamais.
Et on n'a pas fini.
Et de célébrer. On n'a pas fini. Et de célébrer les victoires et la présence quand même qui est relativement grosse de manga. Dans les distinctions officielles.
Déjà, rien que le fait que la 50e édition soit consacrée au manga, c'est quand même énorme.
Ouais,
rien que ça, c'est.
Ils sont autant mis en avant.
C'est énorme.
Voilà. Et on va enchaîner avec la dernière partie gentiment.
Exactement.
Avec comme transition, donc, on a eu le premier opening culte de l'Attaque des Titans. Là, on va enchaîner avec. Pareil, le cœur.
Toujours le cœur.
Toujours le cœur.
C'est important.
Mais le cœur plus doux. Plus doux, mais pareil, comme on l'a dit. Pas moins impitoyable avec l'opening 2 de Ranking of Kings. Voici de retour sur Cachillon, Radio Campus Pau, et nous attaquons la dernière partie de l'émission qui va se concentrer, tout simplement là, qui va être une petite discussion sur le festival à la cool, que vous ayez un petit complément et
un petit ressenti.
Donc, comment était ton festival? Quelle était ton expérience de cette 50e édition?
C'était une randonnée, parce que j'ai fait plus d'allers-retours entre pour situer Manga City, qui est vraiment au plus bas niveau, au plus proche niveau de la mer, on va dire, et le monde des bulles, donc qui est l'espace réservé au BD franco-belge et aux comics.
C'est le gros, c'est voilà. Le plus gros, la plus grosse bulle.
C'est ça. Et aussi, on est allé un peu au stand des BD alternatives, mais ouais. Mes gros allers-retours, c'était quand même Manga City et Monde des Bulles. Et Monde des Bulles, donc, qui est tout en haut de la colline qui est Angoulême. Et donc, forcément, bah, les 4 jours à marcher et faire des allers-retours, on se motive parce qu'on sait qu'à la fin, bah, on peut voir des auteurs, des exposants. Typiquement, quand le premier jour où j'ai fait 4 allers-retours pour aller voir pour la dédicace de Bergère Guerrière et après pour aller voir Renaud, c'était trop bien. Mais c'est vrai que tu sors du festival et t'as les 5 heures de route et t'as. J'ai mal.
Dur.
Mais ouais, c'est toujours un plaisir. C'est toujours le plaisir dans la douleur et pour plus de plaisir.
C'est comme ça qu'on l'aime, le festival.
Mais voilà, c'est vraiment un autre monde, en fait. T'arrives et juste, tu vois que des gens qui viennent... Sauf les gens qui viennent pour revendre leurs dédicaces. Mais tu vois que des passionnés qui discutent de trucs. C'est vraiment l'ambiance festival, que ça soit BD ou musique, que moi j'aime.
C'est vrai que tu l'as dit, c'est un autre monde. Là, Angoulême devient la bande dessinée.
C'est un
partout.
Îlot.
Elle est partout.
Ça. Tu vas à n'importe quel coin de rue, t'as des stands en extérieur, t'as des boutiques temporaires. C'est partout.
Plus le fait que la ville, en plus, c'est hyper courant de croiser sur des murs des petits graphes qui rappellent la BD, ou
aussi.
Même des giga fresques.
Les fresques sur les murs sont tellement belles. Après, on est habitué parce que c'est pas la première édition, mais c'est vrai qu'il faut le mentionner.
C'est toujours un plaisir.
Le cadre est trop beau.
Et
après, je termine juste sur les allers-retours parce que je dis qu'on fait des randonnées, mais il y a des structures prévues. Pour les gens qui sont pas bêtes comme moi et qui ont pas envie de faire que des allers-retours, il y a des navettes, juste que moi je marche. Mais voilà. Il y a des choses quand même. Ils sont pas à leur coup d'essai, ils ont quand même préparé plein de choses. C'est juste que quand t'as envie d'arriver tôt et que tu t'as pas forcément pris les horaires des navettes, comme une certaine personne, tu marches.
C'est dur.
Et finalement, tu mets autant de temps, c'est juste que tu souffres moins.
C'est un quart d'heure à peu près entre Manga City et
10 minutes le trajet, donc je me dis que tu mets autant de temps en navette.
Oui.
Et donc si jamais j'ai besoin de courir, je cours quoi.
Exactement.
Au moins.
Oui.
Mais voilà, c'est ça. Puis ça me fait faire du sport.
C'est vrai. c'est sportif, parce que mine de rien. Alors c'est quand même des montées, descentes. En plus là il faisait froid, donc avec quand même un peu couvert, avec des sacs pleins.
Voilà, il y a le poids aussi. C'est-à-dire que tu ressens les armures lestées là.
Voilà.
Tu sais ce que c'est.
T'es très triste de lire des fois des trucs gros, des trucs.
C'est ça. Tu te dis que tu les achèteras peut-être le dernier jour.
Donc ton festival, il était au final, il s'est concentré entre achats et dédicaces.
C'est ça. Ça a été moins d'achats que l'année dernière.
Ouais.
Pas beaucoup moins ça, mais deux ou trois achats de moins et plus de dédicaces.
Ouais.
Donc ça veut dire plus de files d'attente, ce qui est normal.
Oui.
Et après voilà, c'est toujours des moments où t'es dans le calme, tu peux lire autre chose, tu peux discuter avec les gens. Puis pouvoir rencontrer les auteurs quoi, c'est toujours un plaisir. C'est trop bien. Et plus de variété aussi.
Ouais.
Parce que d'habitude j'arrive un peu en touriste surtout sur les BD et les comics. Les mangas, je sais quels auteurs je veux voir, mais les BD comics, j'arrive en touriste et je fais au feeling. Là, c'était un peu plus prévu dans les deux sens, c'est plus de variété, ce qui est cool.
C'était un peu l'édition de l'ouverture.
Exactement. Mais après, ça se voit sur les photos qu'on a envoyées, mais.
Ouais.
D'habitude j'ai plus d'itérations typiquement de Renaud ou de Tony quand il est là j'ai quand même pu voir Renaud deux fois, donc je suis très content.
Oui.
Renaud Le Maire, l'auteur de Dreamland.
Exactement. Non, on l'appelle Renaud.
Oui. Voilà.
C'est le seul pote.
Il est adorable. Tout le monde est adorable.
Oui.
C'est mon mot du jour.
Oh.
Mais voilà, après ça change pas trop d'une année sur l'autre, et toi c'est sensiblement la même chose aussi, c'est vraiment... On profite des stands pour trouver les trucs que les maisons d'édition diffusent pas forcément grandement dans les librairies,
ouais,
on va
ça,
dire.
Ça, c'est l'avantage, ouais. C'est que généralement les maisons d'édition s'adaptent aux auteurs qu'ils ont,
ouais,
et qu'ils mettent en avant. Donc, si c'est des auteurs qui sont pas très courants, on a l'occasion de voir, voilà, de voir ça sur leur stand. On a aussi souvent des petits titres qui sont un peu plus, ouais, qui sont un peu plus confidentiels, et ça, c'est top. Et c'est aussi l'occasion d'avoir des goodies aussi. Ouais. Il y a toujours des goodies un peu spéciaux.
Des chikichi, des porte-clés. Bah, là, pour ta copie, il y avait des porte-clés.
Les porte-clés étaient trop
pour beaux. Les chanceux.
On aurait voulu les avoir.
Mais voilà, typiquement, sur les séries un peu perdues, et dont je vous ai parlé la dernière fois, sur le stand Glénat, il y avait Le Couvent des Damnés et L'Ère des Cristaux. Et
exactement,
j'étais tellement heureux. Alors qu'on les trouve pas ou très peu, ouais, en librairie.
Sur commande.
Ouais, c'est ça. Avec donc là, ça temps. Fait plaisir de vraiment voir une mise en avant. Et c'est pareil, on peut trouver le Galaxy Express. Voilà, ce genre de choses qu'il faut, qu'on a envie de lire en tout cas. Pas forcément qu'il faut, mais qu'on a envie de lire et qui sont compliqués à trouver. Après, c'est normal parce qu'on peut pas tout avoir à portée de main. Mais voilà, moi j'ai pu trouver mes deux tomes de La Rose de Versailles que j'ai pris dimanche, du coup, que t'as pas vu. Mais voilà.
Voilà, je la prends en même temps que vous.
Je te cache des choses.
Oh non.
Mais ouais, ça fait plaisir. Puis c'est toujours. Enfin, c'est toujours un plaisir d'arriver sur un espace de passionné, en fait.
Ouais, bah c'est
surtout ça.
Exactement. Et à ça, moi je rajouterais plus ou moins la même expérience de achat dédicace.
Oui, c'est ça. Après, de toute façon, ça diffère pas trop.
Mais à côté, oui, effectivement, moi je mentionnerais quand même la participation à la rencontre avec Akane Torikai, donc mangaka japonaise. Qui était l'invité d'Akata. Akata a eu son stand qui lui a été quasi entièrement dédié, et ça fait plaisir. Donc autrice en général dont l'œuvre se concentre en fait sur mettre en avant le point de vue des femmes, leur quotidien, ce qu'elles ressentent.
Très intéressant comme interview.
Super cool, ouais. Et les rencontres, ce format-là, qui est un format parmi plein d'autres. Hein. Donc ça, c'est des petits... Oui.
Le gros du festival, c'est quand même des achats et des dédicaces, parce que c'est ce qui est le plus accessible.
Le nôtre.
Voilà. Mais après, il y a des expositions. Ouais. Bon, là, les expositions, elles étaient très compliquées à avoir.
Ça, c'était...
Mais voilà, il y a ça, il y a des conférences qui, je pense, étaient très compliquées à avoir aussi.
Les masterclass de mangaka, ouais, c'était une tannée. Elles sont parties directement.
Ouais.
Enfin, les serveurs ont crashé, etc. Mais là, c'est une rencontre toute cool. Donc les rencontres, c'est ce format-là où en fait on peut venir. Donc on est dans une petite salle de conférence. En fait, c'est une rétrospective de l'autrice avec ses commentaires, etc. Donc c'était super intéressant. Après aussi, on a eu. Alors on n'a pas pu y assister, mais on a vu les photos parce que la queue pour l'exposition Junji Ito.
Ouais.
Avec une mise en scène dans l'espace Franquin.
On arrivait à 8h30,
ouais.
Il y avait déjà 200 personnes devant la porte.
C'était lunaire, c'était abusé.
C'était fou.
Et après, Ikegami qui a eu son expo, au musée d'Angoulême à côté de Philippe Druyer, cœur.
Oui.
Petite mention pour la chapelle Druyer qui
ouais.
était une.
C'était beau.
Un spectacle musical dans la chapelle qui mettait ses œuvres. Druyer n'est pas du manga, mais.
Et justement, c'est ça aussi ce qu'ils font avec l'environnement,
ouais.
Les projections dans les bâtiments, sur les façades. Typiquement sur l'hôtel de ville, il y avait une projection aussi. Et
oui.
Il y a plein de choses partout.
C'est partout.
Tout.
Mais en plus, là, à travers les expos, là, j'y pense maintenant. Mais typiquement, de mettre dans le musée l'expo de Ikegami et de Druyer, qui sont incroyables, avec des planches magnifiques. On est en plus sur deux mecs hyper techniques.
Oui.
Et c'est trop bien, mais un peu comme ils avaient fait l'an dernier, avec toujours pareil au musée, il y avait à la fois l'expo de Shigeru Mizuki et l'expo René Goscinny. En fait, c'est que c'est aussi une manière de reconnaître l'importance du manga, de poser à égalité en fait, des auteurs de manga, je veux dire, qui seraient. Qui sont forcément moins importants pour notre patrimoine culturel à nous, français, à côté d'immenses auteurs comme René Goscinny, donc
ouais.
Scénariste entre autres d'Astérix, enfin voilà, qui est Lucky Luke et Philippe Druyer, enfin pareil, monstre de la SF française, cofondateur de Metal Hurlant, enfin voilà, et on a ces auteurs-là qui sont mis sur le même pied, qui ont le même espace de dédicaces et en plus qui ont le même soin de mise en scène. Ouais. Voilà, qui est, c'était incroyable. Oui,
c'est beau de montrer la parenté qu'il peut y avoir. Les, pas forcément les références, mais voir que c'est le même médium en fait.
Oui, c'est ça. Et voilà, bah après les expos, quand on peut en glisser une avant de partir sur. Malheureusement, peut-être les petits défauts du festival, enfin, alors qu'ils sont contraignants, on parle de petits défauts, voilà, mais après c'est hyper compliqué.
C'est des contraintes de, qui sont extérieures à l'organisation.
Ouais,
bien
sûr. Bah, de toute façon, un festival aussi gros,
voilà.
C'est compliqué, mais effectivement, là on a clairement senti, je pense, les limites en termes de place, au moins sur la partie manga.
Oui.
Manga City était trop petit par rapport à l'affluence. Il y avait, dites-vous, qu'il y avait
après, c'était surtout le samedi qui est le plus gros jour qu'on a ressenti.
Forcément, ouais.
C'est là qu'on l'a ressenti le plus.
Et en plus, c'est là où il y avait la majorité des dédicaces de mangaka.
Oui,
en plus.
C'est là qu'on voulait voir Monsieur Ikegami.
Voilà, qu'on a vu.
Qu'on a vu. Mais on n'a pas eu la vraie.
Il faisait deux séances de dédicaces. Il y avait une signature sur Shikishi.
Tristesse.
Et avec un petit dessin. Et après, il y avait la vraie dédicace, dessin. On n'a pas eu, qui était sur tirage au sort. Mais pour vous dire, en fait il y avait des queues. Alors déjà les queues tout simplement pour les dédicaces étaient longues, hein, même au-delà des tirages au sort, etc. Mais les queues, il y avait des queues pour payer, juste pour passer à la caisse. Donc on va sur le stand, on achète et on faisait les queues pour passer à la caisse qui duraient plus d'une heure et demie.
Et c'est ça. C'est la rançon de l'affluence, quoi.
C'est vraiment
toucher plus de monde, oui. Mais du coup, voilà, on se retrouve avec beaucoup de monde.
Et on voit les limites. Et en plus de ça, forcément, parce que c'est le modèle qui est en place et qui est totalement légitime, du fait qu'il faille acheter un tome, enfin un article sur un stand pour avoir un ticket de dédicace. Mmh. Et donc là, forcément, ça crée une affluence monstre, plus les gens qui étaient juste là pour acheter. Et on a vu que Manga City, on n'était pas assez grand, et qu'en plus malheureusement forcément, mais ça c'est pareil, c'est normal aussi, et on le reproche pas, c'est qu'en plus les équipes sur place des éditeurs, elles étaient pas armées pour gérer
elles
ça,
pas préparées,
elles étaient pas armées. Et aussi mention dans cet ordre d'idée là pour Junji Ito, alors effectivement c'est un auteur populaire très 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 en vue. Alors en plus Mangetsu avait prévu large de faire 100 dédicaces par jour, donc premier arrivé premier servi,
c'est quand même énorme,
c'est énorme en termes de trucs, sachant sur 2 heures, et vu le soin qu'apporte Ito à ses
vraiment
dessins,
il a dû passer un festival épuisant
musclé, sachant qu'il avait évidemment
il avait d'autres choses à faire à côté en plus.
Mais pareil, on a vu aussi les limites, parce que évidemment, vu que c'est un auteur en vogue, il y avait beaucoup de il y a eu des scalpers sur les dédicaces. Beaucoup de gens qui attendaient loin. Et en plus, l'accès au bâtiment, c'était le même à la fois pour l'expo et la dédicace, et donc pour accéder aussi au stand Mangetsu. Donc c'était hyper compliqué.
Ouais.
Et pareil, en fait, on a vu ce que ça pouvait donner avec un auteur aussi populaire massivement. Heureusement qu'ils avaient prévu différemment pour Isayama. Isayama, les dédicaces, elles étaient sur un jeu concours en amont. Donc les gens qui y avaient accès le savaient, et il y avait un après-midi qui était prévu. Mais pour Ito, c'était plus c'était la jungle, quoi.
C'est d'autant plus triste quand on retrouve les dédicaces en vente sur Internet.
Ouais, plus, oui, c'était inaccessible. Les gens revendaient à la fois leurs dédicaces et les tickets pour y aller.
Ouais.
Et se lever à 4h du mat, il y a eu plein d'histoires qui tournaient sur le salon. C'était dommage. C'est le jeu, hein.
C'est ça.
C'est le jeu, mais
quand
c'est...
quelque chose a du succès, forcément, il y a des abus, et c'est pas... Comme on l'a dit, c'est pas un problème lié à l'organisation, c'est juste l'afflux de monde qui entraîne des dérives.
Oui, c'est clair. Je pense que Mangetsu savait qu'il y aurait du monde sur Ito,
oui.
Mais peut-être pas autant, et peut-être que
c'était
complexe. Mais voilà, ça c'est le vrai bémol d'Angoulême. Ça c'est les fils.
Le succès en fait.
Ouais, le succès. Et en
c'est
fait,
vraiment le succès.
Parce que vu que c'est normal aussi, hein, on le rappelle. Que le festival ne fait pas d'organisation centralisée, chaque éditeur gère son auteur, etc. Et ce qu'il fait venir, en fait, ses animations. Et c'est hyper complexe en termes de place, d'affluence, etc. Donc voilà, on espère peut-être que l'an prochain Manga City va grossir un peu.
Encore.
Ça serait cool, sachant qu'en plus, pour vous dire, Manga City, parce qu'on l'a pas tout à fait précisé, que Manga City c'est le gros des éditeurs manga, mais il y a une partie des éditeurs manga qui se retrouve, qui est dans les auteurs, dans la bulle des maisons alternatives.
Voilà.
Et quand on a par exemple les arts noirs, ça a rabâché les oreilles parce qu'ils sont toujours sélectionnés partout. à raison. Il y a aussi par exemple Cornelius,
il y a
pas que du manga.
Aussi.
Et pareil, donc
c'est
en
là
plus
qu'il faut acheter de Nomba.
Exactement. C'est Nomba là-bas. Et d'ailleurs même Opération Mort qui a eu son prix l'an dernier également. Et voilà, enfin,
donc, et en plus, même dans même dans Manga City, il n'y a pas tous les gros éditeurs
non,
manga qu'on trouve.
Non, c'est vrai qu'il y a eu des absences cette année. On n'a pas retrouvé Ototo, on n'a pas retrouvé Kiyun, entre autres. Et après aussi, pareil,
il y a
on a d'autres. Non, pas Crunchyroll non plus. Mais en plus aussi, on a bah, par exemple Glénat qui a à la fois son stand BD francophone et manga. Mais on a donc là eux qui ont leur de stand, mais par exemple une maison d'édition comme Panini ou Dupuis, eux ils ont leur manga au monde des bulles sur leur stand principal. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en plus Manga City c'est même pas comme si on perdait de la place quoi. Genre,
ouais, mais il y a de plus en plus de monde.
Il y a de plus en plus de monde, bah, voilà. Après c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au manga.
C'est extensible.
Voilà. Et c'est donc à voir. Enfin, ça va être une piste de réflexion, je pense, parce que, bah, évidemment, je pense que ils n'avaient pas forcément prévu ça non plus.
Non, je pense une telle affluence, je pense pas.
Ouais, là, elle a été, énervée. Ouais. Elle a été énervée. Le samedi
matin, quand on est arrivé, c'était impressionnant.
C'était impressionnant. Voilà. Donc, on termine sur cette note un peu critique, mais
bah, après,
on est ravis.
Voilà. On a quand même passé. Enfin, ça enlève rien. C'est juste. Voilà,
il fallait forcément le mentionner parce qu'on peut pas.
Oui.
Bah, en fait, le festival forcément a des défauts, donc on a quand même passé quasiment.
Je pense qu'ils sont au courant de toute façon.
Oui, c'est sûr.
Non, c'est pas non plus.
On a passé quasiment une heure à vous dire que c'était trop bien et
voilà.
Forcément il fallait qu'on soit tatillon. Et donc voilà, donc bilan positif. Hein,
oui, toujours.
Bilan très positif, toujours. On adore. Donc on y retournera l'an prochain.
Bien sûr.
Vous aurez une émission l'an prochain également.
Bien sûr.
Le retour. Et maintenant qu'on va faire un peu de tour d'horizon, il va être
très curieux de voir les auteurs qui seront invités du coup. Mais oui.
Ça va être fou. Voilà, les expos et tout.
Oui.
Enfin voilà, bref. Il va être temps de se quitter avec tout ça en tête. Normalement, vous avez une bonne liste de.
La liste est exhaustive. Il y a de tout en plus.
Vous avez de tout, effectivement. Du vieux comme de l'ancien, un peu tous les genres. Enfin, c'est
un peu de tout.
C'est caverne. En plus de ça, vous avez une idée d'Angoulême. Si vous n'y avez pas été, si vous y avez été.
Fallait venir nous dire bonjour.
Ouais, n'hésitez pas à en parler d'ailleurs. venez donner le cloud sur Instagram. Sur Cachion Podcast. Voilà, et on se retrouve dans un mois pour une émission qui, pareil, qui c'est l'émission du cœur, qui va faire plaisir sur un gros focus parce que le mois de février.
Le grand retour.
Le 15 février signe le retour en librairie de manière un peu forte, tout en confiance d'un auteur qui nous apprécions particulièrement. Oui. À savoir Mitsuo Adachi.
Voilà. Lisez Katsu.
Lisez Katsu.
Et surtout achetez-le pour qu'on en ait plus.
De toute façon, on va beaucoup en parler là.
Oui.
Là, on revient, on va en parler sec. Donc, on se retrouve dans un mois
pour parler de Mitsuo Adachi.
Voilà, les bisous et matane.
Matane.